En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je donne la parole à Martin Mott, qui est directeur d'études, récent d'ailleurs, à l'École pratique des hautes études, cinquième section, je crois.
Quatrième.
C'est la quatrième. Ah, c'est des études historiques, c'est
oui,
ça?
Oui, oui, oui.
Et directeur du cours de stratégie à l'école de guerre. Et donc, eh bien, vous avez la parole.
Alors, évidemment, parler de la mer, c'est gigantesque, puisque c'est quand même les deux tiers du globe. Et il est impossible, en une demi-heure, d'évoquer tous les aspects qui lient donc la conduite de la guerre navale à son milieu naturel. Et c'est pourquoi j'ai été amené à des choix. J'ai choisi d'écarter un traitement tactique, parce que la mer, c'est quelque chose de, enfin, la domination de la mer est quelque chose de très technique, puisque la machine s'intercale entre le combattant et le milieu. Donc, s'il fallait parler de l'aspect tactique, il faudrait détailler toute l'histoire des techniques de combat naval, ça nous mènerait beaucoup trop loin. J'ai évacué aussi des aspects, disons, grand stratégiques, l'interface avec la puissance terrestre, avec la puissance aérienne, parce que ça va être traité, je pense, demain dans la confrontation tellurocratie-thalassocratie. Je n'ai pas parlé de la guerre littorale, puisque c'est Emmanuel Boulard qui va le faire tout à l'heure. Je m'en suis donc tenu surtout à l'aspect opérationnel, parce que c'est peut-être celui où justement l'interférence, la spécificité de la guerre navale par rapport à son milieu se manifeste le plus. Je procède en trois temps. La mer comme enjeu stratégique et milieu opérationnel. Évidemment, il faut quand même parler des enjeux stratégiques qu'elle représente, sinon on ne comprend pas pourquoi on s'y bat et donc quelle forme prend la guerre. Deuxièmement, les stratégies essentiellement opérationnelles donc, qu'on a mis au point pour répondre aux défis que pose la mer. Et puis troisièmement, une petite saisie des évolutions les plus récentes de la guerre sur mer, car évidemment, un des aspects centraux de cet exposé, c'est la dialectique entre le milieu, la stratégie et la technologie. Encore une fois, le facteur technologique est plus important sans doute que dans la guerre sur terre et aussi important que dans la guerre en l'air. Tout d'abord, donc, la mer comme enjeu stratégique. Les enjeux de la mer sont assez clairs. C'est tantôt le fossé qui protège de l'invasion et qui a préservé, par exemple, la personnalité historique de la Grande-Bretagne, évidemment. C'est parfois la voie d'invasion. La voie d'invasion ou la voie commerciale, et dans les deux cas, évidemment, le facteur central, c'est le principe d'Archimède. C'est qu'on n'a trouvé encore aucun moyen de transport, soit de marchandises, soit de troupes aussi puissants. C'est évidemment pas le plus rapide. Les bateaux sont lents, même aujourd'hui. Les avions sont beaucoup plus rapides, mais en capacité d'emport, il n'y a absolument rien au monde ne peut égaler un navire. C'est un forum diplomatique, car c'est Res Nullius ou Res Omnium, et c'est d'ailleurs cette tension entre Res Nullius et Res Omnium qui en fait un milieu extraordinairement violent, puisque les interprétations permettent à chaque ambition de s'affirmer très, très fortement. Et donc on peut s'y montrer, on peut y montrer sa force, on peut croiser devant les côtes d'un pays adverse à la limite des eaux internationales pour montrer qu'on peut aller très loin, mais sans déclencher la force. Ça doit donc une souplesse. Ce qui explique que Cromwell ait dit que la mer était le navire de guerre était le meilleur des ambassadeurs. C'est une cachette. Cette phrase figure dans, au début d'un des plus beaux romans de mer qui soit, c'est-à-dire La mer cruelle de Montsarrat, où il présente les personnages et il dit le premier personnage de ce récit, qui est d'ailleurs autobiographique, est l'Atlantique. Et il dit l'Atlantique est la plus grande cachette du monde. Ce qui est évidemment pas vrai, puisque la plus grande cachette du monde, c'est le Pacifique. Alors, une cachette, ça veut dire que ça peut prêter évidemment à des trafics illicites et tout, mais ça veut dire aussi et surtout, pour la grande stratégie, que ça permet de baser des sous-marins nucléaires lance-engin. Et je dirais qu'à plus petite échelle, si nous prenons les tirs de missiles russes depuis la Caspienne, l'intérêt, c'est bien sûr la position de la Caspienne, mais c'est aussi que les quatre lanceurs qui ont lancé ces missiles sur Daesh, évidemment, sont des lanceurs mobiles. Et donc, si Daesh avait, par hypothèse, les moyens de riposter, elle ne saurait pas où taper. Donc, on retrouve à une autre échelle le principe du sous-marin nucléaire lance-engin. Et puis, c'est évidemment un réservoir de ressources de toutes sortes. Donc, en ce sens, ça peut être un enjeu en soi. Mais pour tout le reste, pour toutes les autres fonctions, la mer est un vecteur. Ou un lieu où on se dissimule avant de frapper autre chose, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un enjeu en soi. Le seul enjeu en soi, c'est comme réservoir de ressources, et on verra que c'est sans doute là que les choses ont le plus bougé avec l'époque contemporaine. Alors, deuxièmement, donc, enfin, toujours dans cette même partie, les caractéristiques opérationnelles. Donc la première, évidemment, c'est la fluidité. On a affaire à une route essentiellement et pas à un territoire. Et c'est absolument fondamental parce que là, on retrouve à l'instant ce que disait Benoît Durieux, c'est que dans la guerre terrestre, l'enjeu ultime, c'est le contrôle d'un territoire, c'est une présence sur un territoire. Et c'est ça aussi qui fait que la bataille est recherchée et qu'on la veut décisive, car conquérir un territoire, c'est soit... Enfin, c'est en déloger l'armée qui le défend, et défendre un territoire, c'est empêcher de rentrer l'armée qui veut le conquérir. Donc, à chaque fois, il y a bataille, on la veut décisive. Bon. Mais là, on n'est pas dans un territoire. Et c'est ce qu'a montré en particulier Corbett, qui était à la fois le plus grand des stratégistes navals et en même temps un juriste, et de formation un juriste. Ce n'est pas un territoire. Donc, on ne peut pas se l'approprier. On n'a pas les moyens de contrôle permanent que suppose un territoire, parce qu'on n'a pas les moyens de présence permanente que suppose un territoire. Donc, ça change beaucoup de choses. Alors, avec cette fluidité, vous avez évidemment l'absence de front. Et l'absence de front est intéressante parce qu'elle explique, je dirais, le retard à l'allumage de la stratégie navale théorique sur la stratégie terrestre. On a théorisé la guerre navale très tard. On a énormément de traités de tactique navale dans toute l'histoire, mais évidemment, la tactique est impermanente puisqu'elle dépend des moyens techniques. Mais en revanche, les livres de stratégie navale n'apparaissent que très tardivement. Plutôt d'ailleurs qu'on ne le pense, parce qu'en fait, ils apparaissent quand même dès le XVIIIe siècle. On s'est beaucoup trompé, on a cherché dans les livres de guerre navale de la stratégie, on ne l'a pas trouvé, on en a déduit qu'on avait oublié cette dimension. En fait, ce sont dans les livres d'histoire navale écrits au XVIIIe siècle et au XIXe siècle qu'il faut chercher les premières formulations théoriques, qui sont en fait plus amples qu'on ne pense. Mais néanmoins, ça fait un gros retard sur l'archiduc Charles, sur toutes sortes de traités militaires, sur Végès, évidemment. Donc c'est lié à cette absence de front, parce que quand on a affaire à un milieu solide, il est facile de penser. Et il est facile d'ailleurs de dessiner une bataille terrestre avec le front, les ailes, l'avant, l'arrière. C'est conceptuellement facile à représenter, c'est pas le cas du tout d'une bataille navale ou d'une guerre navale a fortiori. Alors ubiquité, parce que le bateau peut aller dans toutes les directions. À la différence de l'armée de terre qui a servi au relief, qui doit suivre les routes, les axes, donc les vallées, etc., eh bien, le bateau peut aller dans toutes les directions. Il marche 24 heures sur 24, ce qui n'a pas été le cas des armées pendant très longtemps. Et donc, même s'il n'est pas rapide, au fond, il a une mobilité tout à fait inégalée et inégalable jusqu'à l'aviation. Alors, l'aviation a une plus grande mobilité, mais comme elle est beaucoup plus courte, au fond, ça compense. Hein. L'immensité du milieu maritime, évidemment... Et ça rejoint évidemment la cachette dont je parlais. Et la résultante de tout ça, c'est le principe d'incertitude, qui est un principe militaire, enfin principe de description de toutes les guerres, bien sûr, mais qui est maximal dans la guerre navale. Et d'ailleurs, le jeu, la bataille navale auquel jouent les enfants, le montre très bien, c'est que le problème, c'est qu'on ne sait pas où est l'ennemi. Alors après, il y a la servitude diplomatique représentée par les neutres. On est dans un espace où il y a des neutres. Ce qui, en principe, n'est pas le cas d'un champ de bataille terrestre, puisqu'il y a deux armées ou deux factions qui s'opposent, mais qui se représentent, l'une, le défenseur qui est sur son territoire, l'autre, l'attaquant qui est hostile, mais il n'y a pas de neutre. Bon. Et donc, la présence des neutres induit une servitude diplomatique dans les opérations. Évidemment, l'exemple type, c'est le torpillage de Lusitania en 1915, qui provoque une telle tempête que ça oblige les Allemands à revenir sur leur guerre sous-marine pendant quelque temps. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut en raison de cette contrainte diplomatique. Après, on a l'infériorité de la défensive. Alors, cette infériorité de la défensive, c'est l'infériorité de la défensive tactique, parce qu'on ne peut pas se mettre à couvert, étant donné qu'on est dans un milieu isotrope. Hein. La troupe qui est plus faible dans l'armée de terre, bah, elle cherche à saisir un village, elle cherche à se poster dans un bois, elle s'enterre, et on ne peut pas s'enterrer en mer. Hein. Donc, normalement, à effectif égal... et à compétences égales et matériel égal, eh bien, c'est le plus fort qui gagne, c'est le plus nombreux qui gagne. C'est ce que disait Nelson, qui disait « Only numbers can win hein. ». Donc, mais vous avez aussi une infériorité de la défensive stratégique, parce qu'en raison de l'incertitude signalée tout à l'heure, on ne sait pas où l'ennemi va frapper. Donc, si on sait que l'ennemi est à la mer, il peut frapper une multitude d'objectifs, il peut frapper notre commerce, qui est très disséminé par la nature même de l'élément marin, il peut frapper nos colonies du temps où on en avait, il peut frapper nos côtes, hein. Il peut attaquer nos alliés. La multitude des objectifs fait que on ne peut pas tous les défendre, et si on les défend tous, eh bien on est faible partout, selon le principe du Frédéric II, qui dit que qui veut tout défendre, on ne défend rien du tout. Hein. Donc vous avez une infériorité de la défensive, tant tactique que stratégique, et on en a déduit souvent, c'est le cas avec l'amiral Mahan, que la guerre navale doit être fondamentalement offensive. Qu'il faut courir à l'adversaire dès le début pour le prendre dans ses ports. Là, on sait où il est au début. Bon. Ce qui est évidemment un excellent principe, mais c'est un peu le principe d'Obélix. Hein. On assomme les Romains, on enlève Falbala et on revient à la maison. C'est-à-dire que c'est le principe qui n'est accessible qu'à celui qui est le plus fort. Et donc c'est une stratégie, d'une certaine manière, dont on connaît d'avance l'issue, ce qui n'est pas le cas de la stratégie terrestre, moins le cas de la stratégie terrestre. Après, vous avez enfin la rareté des batailles décisives, non seulement parce qu'au fond, elles sont non pertinentes à la mer, puisqu'il ne s'agit pas de conquérir un territoire, mais aussi parce que le plus faible sait très bien qu'il a peu de chance, et donc il va par principe éviter de se faire accrocher, et c'est beaucoup plus facile d'éviter de se faire accrocher dans un milieu isotrope, parce qu'on peut fuir dans toutes les directions. Alors que dans le milieu terrestre, lorsqu'on a battu l'ennemi, on sait sur quel axe de retraite ennemi se porter pour choper coincer l'ennemi au pont suivant, au carrefour routier suivant, c'est pas le cas du tout. Les facultés de dégagement sont beaucoup plus vite, faciles donc en stratégie navale. Et puis, le dernier point qu'il ne faut jamais oublier, c'est la friction due aux éléments, et qui renforce encore le principe d'incertitude. On a affaire à un élément qui est, par essence, destructeur. L'eau est le plus puissant des solvants. L'eau salée est encore plus puissante que l'eau douce. Il y a le vent, la houle, etc., etc. Donc, on a constamment des choses qui interfèrent, plus encore que dans le milieu terrestre, avec le plan du commandement. Un exemple. Napoléon part pour l'Égypte. La flotte britannique est beaucoup plus nombreuse, beaucoup mieux entraînée, beaucoup mieux commandée. Donc s'il y a rencontre entre les deux, l'expédition d'Égypte s'arrête, Napoléon finit soit au fond de l'eau, soit dans une prison, et on peut quand même supposer que l'histoire du monde en aurait été assez substantiellement changée. Ben, Napoléon part, enfin Bonaparte part, et puis il apparaît le 19 mai 1798 de Toulon, Nelson le guette du côté de la Corse et de la Sardaigne, et puis dans la nuit du 20 au 21 mai, il y a une tempête qui casse le mât du navire de Nelson, il doit revenir en Sardaigne, Napoléon passe. Le 25 juin 1798, Nelson s'est mis à la poursuite de la flotte de Napoléon, et les deux flottes vont se croiser à quelques kilomètres de distance. Elles ne se voient pas, parce que le temps est bouché. Et Vandriès, avec son grand bouquin de la probabilité en histoire, s'est amusé à faire le calcul d'après les données météorologiques de la zone, et il y avait une chance sur deux que Nelson ne voit pas Napoléon. Il se trouve que ça a joué en faveur de Napoléon. Le jour suivant, vous avez une tempête qui disloque la flotte française, qui est donc toujours très proche, sans la voir, de la flotte anglaise. Et cette tempête qui disloque la flotte française, sans doute parce qu'elle est moins entraînée, etc., eh bien, lui fait prendre plusieurs jours de retard sur Nelson, qui de ce fait arrive le premier en Égypte, mais repart, ne trouvant personne et pensant que les Français sont partis vers la Syrie. Et le lendemain du départ de Nelson, eh bien, la flotte française arrive en Égypte. Donc un jour plus tôt, si elle n'avait pas été retardée, elle tombait sur Nelson, et de nouveau, l'histoire prenait un cours tout à fait différent. Voilà des exemples d'aléas qui compromettent les plans de guerre. Et puis, alors, vous avez évidemment les aléas massifs, les tempêtes qui sauvent le Japon, les tempêtes qui, dans la première guerre punique, ont coûté peut-être plus de 100 000 morts et peut-être même près de 200 000 morts en trois fois seulement à la flotte romaine, et qui ont compromis, car les Romains étaient en train de prendre l'ascendant, donc qui ont prolongé sans doute considérablement les guerres puniques. L'épisode de la Grande Armada de 1588, avec au moins 20 000 morts, mais on oublie toujours que vous avez une autre Grande Armada en 96, puis une troisième Grande Armada en 97, qui sont pas tellement inférieures en effectif. Et puis il faudrait évoquer toutes les tentatives françaises en Irlande, au Pays de Galles, également déjouées par le temps. Et puis il faudrait évoquer, avec la technologie moderne, bien sûr, les perturbations acoustiques, les perturbations électromagnétiques, hein, qui peuvent fausser la détection de l'adversaire. Et ne croyons pas que les tempêtes ne soient plus un problème pour des marines de guerre modernes. Hein. Dans la guerre du Pacifique, on a donc ce typhon Cobra, mais qui est que le plus violent d'une série de typhons, et qui compromet nettement les opérations de la troisième flotte fin 1944, début 1945, parce qu'elle perd trois destroyers, neuf autres bâtiments très endommagés, etc. Il faut ajouter qu'aujourd'hui, vous avez des phénomènes climatiques extrêmes, hein, et que donc les bateaux ont été conçus en fonction de phénomènes climatiques qui sont peut-être déjà caduques. Hein, donc ces épisodes-là peuvent interférer aujourd'hui encore avec la guerre navale. Alors, dans une deuxième partie, donc, voyons comment on s'est accommodé de ce milieu très particulier. Et j'ai mis cette citation qui est en fait aussi une forme de clin d'œil, c'est qu'à la limite, je pourrais vous dire il n'y a rien à dire parce qu'au fond, chez nous, stratégie navale, on ne sait pas ce que c'est. Hein. C'est ce que disait l'amiral Bouet-Villaumez donc en 1857. Donc on a dit longtemps que c'était le caprice des vents qui empêchait de rationaliser l'action, donc il ne pouvait pas y avoir de stratégie en raison de cette incertitude. Mais là, on est quand même nettement après l'apparition de la vapeur, et on a encore un amiral français, qui n'est pas des moindres, hein, qui dit « bah non, vous savez, nous, la stratégie, on ne sait pas faire hein. ». Bon, alors, en fait, je pense qu'il faut interpréter cette phrase comme marquant la perplexité face, encore une fois, à l'absence de corpus doctrinal bien stable au milieu du XIXe siècle. Bon. Mais en fait, de manière empirique, il y eut très tôt des stratégies navales. Je ne parlerai pas ici de celles que les Athéniens mettent en œuvre dans la guerre du Péloponnèse, par exemple, parce qu'au fond, il ressortit plus à la stratégie amphibie, vu la nature du milieu, la mer Égée, qu'à la stratégie navale auturière. Je parlerai, par exemple, de la stratégie britannique dans les guerres contre la France, ce qu'on a appelé la Seconde Guerre de Cent Ans. Alors, les Britanniques ont misé massivement sur la guerre d'escadre, la guerre du fort au faible, ou à la limite du fort au fort, quand la France pouvait être forte. C'est-à-dire avec cette idée que, puisque le problème majeur de la guerre navale, c'est l'incertitude, qu'on ne sait pas ce que va frapper l'ennemi quand il est au large, eh ben on va aller le serrer directement d'entrée de jeu, si possible sans déclaration de guerre, grande spécialité britannique au XVIIIe siècle, devant ses ports même. Car évidemment, si on est avant la déclaration de guerre, on est certain de prendre la majeure partie de la flotte ennemie dans ses ports. Et en détruisant une partie, en bloquant ce qui reste, et avec les services secrets à terre qui renseignent sur les bâtiments qui sont à la mer, ou par simple soustraction sur la liste navale de l'ennemi, on sait combien de bâtiments ennemis sont à la mer, et donc quel volume de force consacré à leur traque par rapport au volume de force qu'on garde en blocus. Donc vous avez un principe de rationalité qui est donné par l'offensive et seulement par l'offensive, avec cette phrase très forte des Britanniques, que le but du jeu est de porter les frontières de l'Angleterre sur les côtes mêmes de l'ennemi. Et au fond, avec ce terme de frontière qui est un terme statique, on retrouve l'idée de la posture de présence hein, qui annule finalement cette fluidité inquiétante de l'eau hein, pour restituer une sorte de garde permanente. Et au fond, on peut dire que toute l'histoire de la guerre navale du point de vue technologique, c'est l'histoire de la recherche de la permanence à la mer. Hein. Comment avoir des bâtiments mieux conçus, plus solides, qui peuvent tenir sur zone, ce qui veut dire qu'il faut aussi prévoir toute une logistique du ravitaillement de l'eau douce, une logistique de la nourriture. Ce n'est pas pour rien que les Anglais adoptent les boîtes de conserve qui sont inventées en France, mais qu'ils les adoptent très tôt pour la Royal Navy. La question de la permanence opérationnelle à la mer. Et dans le cas alors de la stratégie anglaise, là on voit l'épisode de la bataille des Saintes avec la flotte anglaise qui se porte en blocus de Brest, le Western Squadron qui se porte en blocus de Brest, qui finalement n'arrive pas à empêcher la flotte de Brest de sortir, mais qui la course jusqu'au Morbihan et qui la détruit dans le Morbihan. Mais hormis les cas où la flotte française pouvait s'évader, le grand avantage des Anglais, c'est que le blocus, au fond, était plus tenu par les vents d'ouest que par la Royal Navy. 60% du temps, il était très difficile de sortir de Brest. Donc à ce moment-là, les Anglais pouvaient se mettre à la côte, raison pour laquelle ils prenaient Ouessant, voire même carrément à la période impériale, ils descendaient en baie de Douarnenez, ils sécurisaient un périmètre avec des troupes débarquées, ils attendaient tranquillement que la tempête se finisse, puis ils revenaient se poster devant Brest quand le vent retombait. Voilà donc la stratégie de guerre d'escadre. Mais évidemment, elle n'est accessible qu'au plus fort. Alors, cette stratégie opérationnelle se double d'une grande stratégie, je vais quand même l'évoquer un tout petit peu. Cette grande stratégie est toute simple, elle consiste à comprendre, et ça se comprend tout seul, que la mer est vaste, et donc il y a l'ubiquité, le principe d'incertitude, etc., etc. Mais il y a quand même des points d'étranglement, et qu'il faut donc se rendre maître de ces points d'étranglement. Donc l'Angleterre, évidemment, tente de se rendre maîtresse du Pas-de-Calais dès le début, dès le Moyen-Âge. Ensuite, dans les guerres avec la France, elle exigera la destruction de Dunkerque, au traité d'Utrecht, etc. C'était toujours la même idée. Puis, 1704, elle prend Gibraltar. 1800, elle prend Malte. Elle prend des options diplomatiques, des positions diplomatiques sur les détroits de la mer Noire, alors sans les contrôler directement, mais en se débrouillant pour avoir des rapports avec l'Empire ottoman tel que, au fond, c'est contrôlé. Elle s'installera précocement, bien sûr, en Égypte. Elle a des accords avec les pays scandinaves très tôt. Elle occupe à la faveur de la Révolution et de l'Empire le Cap de Bonne-Espérance, à l'époque la seule route vers l'Extrême-Orient, scellant les détroits d'Asie du Sud-Est, puis elle s'installera dans le Golfe Persique, dans le Bab el-Mandeb. Donc là, lorsqu'on a le contrôle de ces positions, on commence à y voir un peu plus clair sur la distribution des forces adverses. Car évidemment, quand elles doivent franchir ces points, on peut les attraper ou au moins les signaler. Côté français, on pallie l'infériorité numérique à partir de Louis XIV, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas, mais qui sont d'abord budgétaires, par une stratégie asymétrique. Et au fond, la guerre de course, c'est l'équivalent Naval de la guérilla sur mer, c'est-à-dire que on mise sur des forces para-étatiques, enfin des forces civiles qu'on a militarisées, auxquelles on a donné des lettres de marque, c'est plus économique. Ces forces sont plus légères, donc elles ont une moindre signature, elles sont plus furtives, peuvent mouiller dans plus de ports, parce qu'elles ne sont pas obligées d'aller dans des ports en eau profonde, hein, et elles vont non pas attaquer les forces ennemies, trop bien défendues, mais attaquer la logistique ennemie, comme toute guérilla. Et dès le début, cette stratégie est insérée dans un vrai projet politique qui est manifesté par Vauban dans son mémoire sur la course de 1695. Il ne s'agit pas de vaincre l'Angleterre. Hein, on sait très bien que ce n'est pas possible. Il s'agit simplement d'amener des conditions de négociation qui soient favorables par rapport aux objectifs principaux de la France qui ne sont pas maritimes, qui sont terrestres. Et ça marche pas si mal parce qu'après tout, même dans la guerre de 7 ans, qui est la pire défaite française du XVIIIe siècle, même dans la guerre de 7 ans, on arrive, on perd le Canada Island, ce qui, nous, pour nous, hommes du XXIe siècle, évidemment, est une date historique sensible, mais pour les hommes du XVIIIe siècle, l'essentiel, c'est qu'on gardait les Antilles, qui rapportaient infiniment plus que le Canada Island réuni. Donc on arrive à sauver l'essentiel. Et si, au fond, ça finit très mal avec Napoléon, ce n'est pas parce que la guerre de course était mauvaise, c'est parce que la stratégie générale de Napoléon le mettait en guerre avec l'univers entier, et que donc le rapport de force, cette fois-ci, ne permettait pas d'espoir de victoire. Alors, sur ces entrefaites arrive la révolution industrielle. Je ne peux pas en évoquer tous les aspects, mais l'aspect peut-être le plus important, c'est que la révolution industrielle, Emmanuel Boulard en reparlera évidemment, va rendre difficile le blocus rapproché avec le développement d'armes spécifiques, en particulier le torpilleur, mais aussi à les mines, puis plus tard les sous-marins. Et plus évidemment le blocus rapproché est difficile, plus la guerre de course retrouve ses chances. Puisque, évidemment, on peut plus facilement sortir des littoraux. Et cette guerre de course qui retrouve ses chances peut en outre frapper un commerce maritime qui est de plus en plus vital pour les économies industrielles. À l'époque classique, le commerce maritime porte sur des denrées, certes importantes, comme le café, le sucre, les porcelaines. Mais enfin, on peut, difficilement il est vrai, mais on peut se passer de café. L'Angleterre, en 1914, importe le tiers de son alimentation. Elle apporte une grande partie de sa viande, elle apporte une grande partie de son blé, puis elle a les matières premières de l'industrie, et puis elle exporte, elle vide ses exportations, elle a besoin de la maîtrise de la mer pour ça. Si la guerre de course se développe, elle va frapper beaucoup plus des fonctions vitales et non pas des fonctions périphériques, comme c'était le cas avant l'ère industrielle. Mais en même temps, et ça c'est la grande idée que je veux défendre ici, c'est qu'au fond la technologie, elle est liée de miser sur le facteur technologique, malgré tout pèse assez peu face à la permanence de l'élément marin. Car il suffit de trouver la contre-mesure pour relativiser l'intérêt de la découverte ennemie. Et en l'occurrence, la contre-mesure, c'est à la même époque la mise au point d'un réseau de câbles sous-marins. À vrai dire, ça commence en 1850, mais en 1900, ce réseau est tellement étoffé et tellement centralisé autour de Londres qu'il permet aux Britanniques de commencer à avoir un suivi en temps réel de ce qui se passe sur les mers. C'est le système qu'on va appeler « War Room System ». Et évidemment, c'est un système qui est capital pour lutter contre la guerre de course, parce que autrefois, on ne rencontrait le corsaire que quand il franchissait un détroit, etc. Et on ne pouvait pas signaler une attaque en temps instantané. Maintenant, lorsque le corsaire a opéré quelque part, le bateau qui a été attaqué, s'il a survécu, revient, donne l'alerte, et par câble, on sait à peu près où il est. Puis après, il y aura la TSF, évidemment, qui améliorera beaucoup les choses. Donc l'atout donné par la guerre de course contemporaine est relativisé. Et on voit la même chose avec le sous-marin. En avril 1917, un bâtiment allié qui est sur la route de Gibraltar à l'Angleterre n'a qu'une chance sur quatre de ne pas être coulé par un U-boat. Et un an plus tard, les U-boats sont défaits. Alors ils sont défaits par une énorme mobilisation, puisque vous voyez que chaque 145 U-boats en opération, eh bien, vous avez 4000 bâtiments de tout tonnage et 3500 avions qui leur courent après. Et c'est là que je dis qu'au fond, la mer reste la mer, parce que c'était déjà le cas avec les corsaires. Hein. Pour un corsaire à la mer, il vous faut 10, 15, 20 bâtiments à la courir après, puisque en raison de l'immensité, de l'ubiquité et de l'incertitude, on ne sait pas où il est. Hein. Donc ça n'a pas changé, mais ce qui ne change pas non plus, c'est que la guerre de course seule finit toujours par être jugulée. Hein. Et pour des raisons un peu analogues à ce qu'expliquait Benoît Durieux tout à l'heure, ça, c'est un peu comme le terroriste. Hein. Y a un moment où il faut avoir une présence que ne peut pas avoir le corsaire. Alors, je m'en tiens là, parce qu'on pourrait parler de la guerre du Pacifique, des avions et tout, mais on arriverait aux mêmes conclusions. Chaque arme nouvelle suscite sa parade, et les coordonnées globales de la guerre navale, finalement, n'ont pas tant changé que cela. Et en particulier, l'alternative garde-escadre ou garde-course, ou un mixte des deux, se retrouve à peu près dans, tous les, dans toutes les grandes réflexions sur la stratégie navale. Alors, je voudrais toutefois parler de la conflictualité maritime aujourd'hui pour tempérer un peu cette idée de permanence et montrer qu'il y a quand même un certain nombre d'évolutions, mais qu'en en fait, elle retombe aussi sur, malgré tout, la redécouverte de fondamentaux. D'abord, ce vers de Schiller sur les vagues, tout est vague, pour expliquer que je ne parle plus ici de guerre maritime, mais de conflictualité, parce que la mer, elle est comme la terre, elle est confrontée à des formes de guerre dont on ne sait pas vraiment si c'est la guerre, si c'est l'irrégularité, le terrorisme. Est-ce que les migrations massives sont susceptibles de rentrer dans la catégorie de menaces militaires, oui ou non? Donc vous voyez, tout ça a été extrêmement flou. La mer, ça a toujours été le domaine du vague et du flou, mais c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui. Alors d'abord parce que vous avez une énorme explosion, bien sûr, de l'économie maritime mondiale. Hein, aujourd'hui, 90% des échanges mondiaux transitent par la mer. Et contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les ondes passant par l'atmosphère ou l'espace extra-atmosphérique, etc., qui représentent la transmission numérique. C'est 99% transitent par des câbles sous-marins, hein, encore aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de mobiles à protéger à la mer, que la protection des câbles est essentielle. Bon. Et on a énormément, beaucoup de moyens de surveillance. Hein. On a beaucoup plus d'avions, on a des drones, on a des radars, on a tout ce qu'on veut. On a même des robots qui sont dans la mer en permanence, qui écoutent ce qui se passe. Hein. Bon, en très grand nombre. Seulement, au fond, comme le nombre d'objets à protéger est démultiplié, et que les menaces, en plus, se sont diversifiées, puisqu'il y a les menaces militaires, puis il y a les menaces asymétriques, terrorisme, immigration massive, etc., au fond, les forces maritimes sont sur les dents et il n'y a pas de transformation complète du panorama que j'ai tracé au début, c'est-à-dire l'incertitude, l'immensité, l'ubiquité, etc. Il suffit de regarder sur Internet le suivi en temps réel. Vous cliquez « Suivi en temps réel du trafic maritime dans le Pas-de-Calais » et vous allez avoir sur votre écran des centaines, des milliers de points qui se déplacent. En cliquant sur ces points, vous aurez, certes, la provenance du bateau, le nom du capitaine, le chargement, le port de départ, le port d'arrivée, sauf que ces données peuvent être falsifiées. Hein, et qu'il n'y a pas assez de bateaux militaires ou des gardes-côtes pour tout surveiller. Hein. Deuxième point, c'est que la fonction ressource de la mer a explosé. Il y a la pêche qui fait vivre une partie de l'humanité, mais il y a évidemment quelque chose d'absolument nouveau, c'est la production pétrolière et gazière, c'est un tiers de la production mondiale. C'est l'apparition de l'exploitation d'énergie marémotrice éolienne photovoltaïque. C'est la perspective d'utiliser demain pour des usages les plus variés qu'on puisse imaginer, les algues, les minerais rares, etc. Et la conséquence, c'est d'abord un phénomène tout à fait nouveau que Lars Wedin, un des grands spécialistes des questions maritimes d'aujourd'hui, a appelé l'infrastructuration de la mer, et qu'on voit très bien sur les images 2 et 3, là, c'est que la mer, qui était un espace incontrôlable, vide, inhabité, etc., maintenant est infrastructurée. Il y a comme des îles artificielles qui nécessitent une maintenance, donc des gens qui sont là en permanence, qui peuvent transmettre l'information, mais qui représentent aussi des cibles potentielles pour des actions terroristes, par exemple. Bon. Donc, et ça veut dire aussi que la mer cesse d'être une voie de passage pour devenir, pour la première fois dans l'histoire, un enjeu en tant que tel. Et avec la conséquence évidente qu'on cherche à la territorialiser, et évidemment, on pense à la Convention de Montego Bay, qui crée des zones économiques exclusives, certes accessibles à la navigation étrangère, mais enfin, où, par définition, l'économie et les ressources ne sont exploitables que par l'État littoral, et ça représente quand même 370 km, ça paraît rien. Mais lorsque vous avez un îlot, la périphérie complète, c'est donc 600 plus, ça fait 740 à 700 et des bricoles, 40 kilomètres, et multiplié, surtout dans les zones du Pacifique, par l'ampleur des îlots, vous arrivez finalement à un tiers de la superficie de l'océan mondial qui est en voie d'appropriation. C'est absolument nouveau. Et on sait qu'il y a des endroits du monde où ça pose d'énormes problèmes. Car vous avez des pays qui estiment que Montego Bay ne va pas assez loin et qui, au nom de droits historiques, réclament d'autres extensions de leurs zones économiques exclusives, voire même de zones de pleine souveraineté, comme la Chine. Il suffit de regarder la carte de l'Extrême-Orient pour comprendre pourquoi, dans cette zone, les armements navals sont en pleine explosion. Hein. Donc, à la fois, il faut aujourd'hui prévoir la sécurisation du trafic contre des terroristes, surveiller les mouvements de population massifs en mer, etc. Et puis, en même temps, on ne peut pas perdre de vue la possibilité d'une grande guerre navale, parce que les détonateurs sont tout à fait en place. Alors, un autre aspect très important de l'époque contemporaine, c'est que les capacités de frappe contre la terre des forces navales sont beaucoup plus grandes qu'autrefois. Je ne parle même pas des sous-marins nucléaires lance-engins, mais simplement des missiles de croisière conventionnels, donc beaucoup plus faciles à employer, comme on le voit toujours, comme on le voit ces jours-ci, hein, eh bien, ont une puissance qui est à la fois liée à leur portée et au fait que, de toute façon, la maritimisation de l'économie mondiale correspond aussi à une littoralisation qui a toujours existé, mais qui est sans doute plus prononcée aujourd'hui, de la population mondiale. Bon, avant le missile, il y a eu l'avion qui partait du porte-avions. Avant l'avion, il y a eu la canonnière qui, remontant les estuaires, pouvait porter la force maritime au cœur des terres, sauf qu'évidemment, elle était asservie au cours d'eau, alors que le missile de croisière, lui, fait à peu près ce qu'il veut. Et alors, en face, eh bien, il y a la recherche d'armes qui iront de plus en plus tirées de la terre, mais qui iront chercher l'ennemi au large. Hein, et bien évidemment, pour avoir la portée maximale, ce sont les armes balistiques, hein, mais ça suppose une localisation extrêmement précise de la cible qui est mobile et microscopique. Donc on peut douter de la réalité de ce que disent les Chinois, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui capables de lancer des missiles qui touchent un porte-avions à 2500 km. Bon. Alors, évidemment, cette prétention nous paraît aberrante. En même temps, la menace balistique ou la menace alors de missiles à plus faible portée, etc., est tout à fait réelle. Donc aujourd'hui, la tendance de fond, c'est la lutte entre la puissance maritime qui cherche à rester suffisamment près des littoraux pour tirer des missiles, et puis la puissance continentale qui cherche à créer des missiles qui éloignent de plus en plus la puissance maritime des littoraux. Et au fond, de ce point de vue-là, ces missiles sont l'équivalent contemporain du torpilleur. Donc on peut quand même malgré tout trouver des analogies avec des choses du passé. Alors en conclusion, dans cette dialectique du milieu naturel et de la technologie, on peut aboutir à un constat assez étonnant, c'est que la mer se solidifie, en tout cas les espaces de quelques centaines de kilomètres au large des côtes sont en voie de solidification juridique par les tentatives de territorialisation, et pratique par l'infrastructuration, et il faut bien comprendre ce lien territorialisation et infrastructuration, car on veut territorialiser la mer pour y mettre des infrastructures, et les infrastructures permettent ensuite de proclamer une territorialisation, comme on le voit avec les Chinois, qui consolident des récifs qui affleurent au-dessus de l'eau, puis qui mettent une infrastructure, puis qui disent bah, « c'est chez nous, puisque on l'occupe hein. ». Donc la mer, ou du moins, en tout cas, les franges côtières, mais de plus en plus loin, commencent à se solidifier. Et paradoxalement, dans la guerre terrestre, on assiste au contraire à une liquéfaction, puisque les fronts ont tendance à disparaître, on est dans des actions non linéaires, l'aéromobilité a permis de frapper les arrières de l'adversaire beaucoup plus facilement qu'autrefois. Bon, les nouvelles formes de conflictualité, c'est le terrorisme, et le bonhomme dont on dit qu'il est ce matin à Saint-Denis peut-être mort, et qui aurait été le commanditaire des attentats d'il y a trois jours, était présumé en Turquie, puis en fait il est là, donc on est dans une fluidité complète, hein, et au fond, il se passe pour la guerre ce que Sigmund Bauman élargit à la description de la réalité sociale en général, c'est qu'on est dans un monde liquide. Hein. Donc peut-être que l'effet de la technologie, avec entre autres l'avion qui joue comme interface, ou le missile comme interface entre milieu terrestre et milieu maritime, la pente naturelle de la technologie, c'est de chercher à abolir les particularités de milieu. En même temps, ces particularités de milieu se recomposent, me semble-t-il, en permanence. Voilà, ce sont juste quelques idées directrices, hein, mais évidemment, on peut peut-être prolonger par des questions.
Ben voilà un exposé lumineux, et effectivement, qui donne les lignes directrices. Il y a un point qui n'est pas apparu, il est peut-être sans importance, c'est le coût. Le coût des flottes, le coût d'opportunité, diraient les économistes, ça doit jouer. Et donc ça joue au bénéfice de qui? Enfin, je ne sais pas.
Alors, très clairement, le coût des flottes joue au bénéfice et c'était déjà le cas à la fin du 19e siècle, au bénéfice des petites et moyennes puissances. Parce que, concrètement, les Américains avaient 20 porte-avions, ils en ont plus que 15, et demain, ils en auront moins. Nous, on avait 2 porte-avions, on n'en a plus qu'un, et demain, si ça continue, on en aura 0. Bon, donc, ces coûts qui sont extraordinairement élevés et qui croissent sans cesse, parce que c'est toujours en plus pratiquement des bateaux uniques, donc des modèles, en tout cas pour la France, donc ça coûte horriblement cher. Bon, je pense que c'est un peu la même chose avec la guerre aérienne, où On avait développé que si les États-Unis continuaient sur leur pente actuelle, en 2050, ils ne pourraient plus acheter qu'un seul avion, en fait. Bon. Donc, inversement, le coût d'un missile pour atteindre un navire juste devant le littoral est à la portée du Hezbollah, par exemple. Hein. Le coût d'un sous-marin anaérobie devient à la portée de puissances régionales. Hein. Donc, il me semble très clairement que les coûts pour les grandes unités jouent en faveur des petites et moyennes puissances. Et ce serait d'ailleurs un facteur, pour rebondir sur la conversation précédente, qui pourrait contribuer à expliquer l'émiettement politique du monde.
Bien, qui veut... Alors, monsieur Lespinois.
Non, c'est un très bon exposé, même si j'ai l'habitude d'écouter Martin, et c'est toujours intéressant. Et en particulier, ce War Room System qui naît en 1900, ou qui naît...
1905, oui.
Ouais, qui permet un véritable contrôle du milieu. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas allé un petit peu plus loin dans ce contrôle du milieu ? Est-ce que ça... grâce aux satellites en particulier, est-ce qu'on ne peut pas avoir une connaissance plus fine, un contrôle du milieu, un situational awareness, pour employer les mots anglais, qui change un petit peu l'appréhension de ce milieu maritime en ce qui concerne la guerre ?
Alors, c'est une question que j'ai posée il n'y a pas si longtemps que ça à des officiers de marine qui s'étaient occupés de, au moment de la guerre, après le 11 septembre, les opérations contre l'Afghanistan, etc. Il y avait eu donc cette opération maritime qui visait à contrôler un petit peu ce qui entrait et ce qui sortait du Pakistan. Voilà. Pour le cas où Ben Laden et ses hommes auraient voulu s'exfiltrer, etc. Ils m'ont dit, les satellites, en fait, ça nous aide un petit peu, mais ça ne nous aide pas tant que ça, pour une raison simple, c'est que le satellite, si on veut qu'il suive un bateau en particulier, il faut pouvoir le dérouter de sa trajectoire, ce qui est extrêmement complexe. Et puis surtout, le vrai fond du problème, c'est l'énorme quantité de navires à surveiller. Donc on revient à ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, les moyens de détection, de surveillance ont augmenté, mais... à tout prendre, beaucoup moins que les mobiles à surveiller. Hein. Donc, alors, en revanche, il y a peut-être une chose qui est plus intéressante, c'est tous ces robots, en fait, qui sont dans la mer, qui sont des milliers de robots, hein, et qui, en permanence, alors, c'est souvent des robots à vocation civile, océanographique, qui analysent les variations de température, de milieu, de salinité, etc., qui permettent une connaissance plus fine du milieu marin, mais qui sont très utiles pour la détection, évidemment, par exemple, de sous-marins. Donc là, il est possible que le ratio entre moyens de détection et mobiles à détecter se soit amélioré, mais franchement, là, c'est extrêmement technique et je ne le jugerai pas. Hein. Bon. Alors, ça reste un milieu qu'on connaît très mal. Hein. Même pour les ressources, on a exploré 3% des fonds marins. Hein, voilà. Donc, dans l'ensemble, ça reste un milieu très énigmatique.
Oui.
Je vous prie d'abord de m'excuser, vouloir bien m'excuser pour mon retard. Monsieur Mott, une question. Vous parliez d'incertitude, vous parliez d'instabilité. Vous évoquiez la citation de Schiller, hein, « Sur les vagues, rien n'est vague », mais « sous les vagues ». C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où une nouvelle incertitude naît, qui est celle du littoral. Vous avez évoqué la littoralisation, mais du littoral, du trait de côte. Qu'en sera-t-il du trait de côte, alors qu'un tiers de la population vit à moins de 100 km? Mais parmi ce tiers, il y a plus des deux tiers de ce tiers qui vivent sur le littoral. Donc il y a aujourd'hui, en termes de stratégie certainement, cette prise en compte, et comment plutôt se fait ou s'envisage cette prise en compte de ce que dans le cadre général on évoque comme le changement climatique, mais en fait la hausse du niveau de la mer et donc une nouvelle interface entre le monde marin et le monde terrestre.
Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Là, je m'en suis tenu à une perspective opérationnelle. Là, on est plus du côté du civilo-militaire, parce que la question de la gestion de la montée des eaux sur les côtes, c'est pas du ressort des forces maritimes. Donc, honnêtement, je ne sais pas.
Oui, ma question, c'est... bien sûr, est-ce que ces hypothèses, qui sont de plus en plus modélisées, sont prises en compte dans...
Elles sont certainement prises en compte pour les bases navales. Enfin, je veux dire, s'il y a une menace de transformation substantielle du niveau de la mer pour une base navale, etc., j'imagine qu'on a commencé à y réfléchir, certainement. Hein. Mais honnêtement, pour le coup, ça, c'est des choses sur lesquelles je n'ai aucune lumière, vraiment.
Très récemment, il y a 2 ou 3 ans, j'avais eu l'occasion de passer 3 jours sur est-ce que c'était un destroyer ou une frégate en Méditerranée, grâce à un amiral qui était passé dans l'Institut et qui, bon. Et j'ai eu l'occasion de bavarder avec le capitaine, enfin le commandant, pardon, pas le capitaine, le commandant fort astucieux. Et 2 remarques qu'il m'avait faites, l'une stratégique et l'autre tactique, m'avaient frappé. La remarque stratégique était la suivante, il faut acquérir le sens de la mer. Ça ne s'apprend pas comme ça à l'école, il faut des années. On peut extrapoler et dire qu'il faut une culture de la mer. Et donc, pour avoir une flotte de guerre, eh bien, il faut des générations et des générations. Et là, le cas de l'Angleterre, enfin, est tout à fait caractéristique. Et sur le plan tactique, il m'avait dit, regardez, c'est immense, il ne se passe rigoureusement rien. Rien. Ce qui pose un problème d'attention et de sommeil. Bon. Mais s'il devait se passer quelque chose, c'est instantané. Donc il faut être constamment attentif parce que d'une seconde à l'autre, il peut se passer quelque chose. C'est même intéressant, enfin, comme remarque, qui rejoint la première. Enfin, ça ne s'improvise pas, il faut une culture. Enfin, bon, simple remarque intéressante. Oui,
moi j'ai
général.
Une question pour Martin peut-être. Au début, tu as noté que la mer était un enjeu stratégique et tu as cité un certain nombre de raisons. En gros, fossé protecteur et voie d'invasion, donc des raisons militaires au fond. Réservoir de ressources très lié au phénomène de territorialisation que tu as décrit. Et puis la voie commerciale. La cachette est aussi une raison militaire en réalité. Quand on regarde dans l'histoire longue, il me semble que, et c'est un peu ce que je me suis replongé là pour préparer cette séance chez Carl Schmitt, mais finalement, une des raisons de l'importance de la mer depuis l'Antiquité et jusqu'à assez récemment, à l'échelle en tout cas de l'humanité, c'était qu'il y avait de très nombreuses terres libres. Finalement, les thalassocraties, oui. Ce sont... des cités-États, d'ailleurs, le plus souvent, qui ont réussi à avoir des comptoirs un petit peu partout. C'est sans doute Athènes à une moindre échelle, mais ensuite c'est Venise, c'est le Portugal, c'est les Pays-Bas, etc. Et donc c'était effectivement, de ce point de vue-là, très lié au commerce, et leur marine de guerre servait effectivement à protéger leur commerce. Aujourd'hui... Première question, quel est, à ton avis, l'enjeu, dans les enjeux que tu as listés, quel est celui qui le prend le plus important, sachant qu'il y a, ça peut peut-être se discuter, il n'y a plus de terres libres, véritablement, que le commerce est moins, et aussi a une caractéristique, me semble-t-il, qu'il est beaucoup moins national qu'il n'a été. Il est, et finalement, qui peut avoir aujourd'hui intérêt à interrompre le commerce maritime ? Donc, comment quelle réflexion ça peut t'inspirer? Et puis deuxième élément, il me semble aussi qu'on voit finalement apparaître peut-être le fait que la mer devient une sorte de terrain, une sorte, un peu comme ça a pu être le cas de la bataille terrestre par le passé, une sorte de terrain privilégié de l'affrontement pour mesurer sa force, de l'épreuve de force. À vocation politique, parce que précisément aujourd'hui la guerre sur Terre elle est contrainte par le fait que la population est beaucoup plus nombreuse que ça n'y était. Aujourd'hui la guerre sur Terre elle se passe où en réalité? Elle se passe dans les recoins de la mondialisation, là où il n'y a personne. C'était le cas dans les montagnes afghanes, c'est le cas dans les déserts du Proche et Moyen-Orient, beaucoup plus que dans les villes très souvent, ou en tout cas dans des villes de moindre importance. Elle se passe dans le désert du Sahara et de l'opération Barkhane, etc. Est-ce que le désert qu'est la mer n'est pas finalement le lieu aujourd'hui de l'affrontement de la force, de l'épreuve de force? On l'a un peu vu à travers, on n'en est pas venu aux mains, mais à travers la montée en puissance des dispositifs navals en Méditerranée. On le voit à travers la montée en puissance des dispositifs navals en mer de Chine. Est-ce qu'il n'y a pas cette vocation de la mer qui apparaît aujourd'hui?
Alors, je prends d'abord la question du commerce. Tendanciellement, on peut être d'accord avec toi, avec quand même juste un bémol, c'est que L'entrecroisement des intérêts n'est pas nouveau. Hein. La question de la marchandise neutre à bord du bâtiment ennemi ou de la marchandise ennemie à bord du bâtiment neutre, c'est au cœur du droit de la guerre, d'abord coutumier de l'Europe, même de la fin de l'Europe médiévale, puis de l'Europe moderne, puis c'est formalisé avec la déclaration de Paris de 1856. C'est quand même un vieux problème. Donc faut pas s'imaginer quand même que c'est la mondialisation qui a croisé les intérêts en mer. C'est par définition, la mer, c'est le grand mixeur, en fait. Donc je pense que c'est le premier point. Ensuite, on a bien vu qu'en 14, que c'est pas parce qu'on a des liens économiques intimes avec un pays, hein, l'Allemagne était le premier partenaire commercial et de l'Angleterre et de la France et de la Russie, bon, donc ça peut ne pas empêcher. C'est vrai que j'ai du mal à croire aujourd'hui que des gens, à part les terroristes, puissent vouloir interrompre le commerce mondial. Donc effectivement, c'est peut-être pas la fonction de préservation du commerce. C'est pas encore la fonction nouvel Eldorado, car tu disais, il n'y a plus de terre libre, mais il y a de plus en plus de fonds sous-marins qu'on peut exploiter. Donc la grande idée, c'est que sans doute au 21e siècle, dans la suite du 21e siècle, il y aura la ruée à l'Eldorado maritime. Donc, ça accentuera le phénomène de territorialisation, ça redonnera une pertinence à la puissance maritime. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que la fin des terres à coloniser, en fait, a correspondu à une sorte de perte d'influence de la puissance maritime par rapport à la puissance continentale, et c'est venu en plus en même temps que le chemin de fer. Et là, c'est de la géostratégie, mais le chemin de fer a porté des coûts très sensibles à la puissance maritime, aussi bien du point de vue économique que du point de vue militaire, comme on le voit aux Dardanelles, par exemple. Bon. Le nouvel Eldorado, c'est pour demain, c'est pas encore le cas aujourd'hui, il n'y a pas encore... Peut-être en Chine, peut-être au large de la Chine, il peut éclater une guerre pour ça, mais c'est pas encore certain. Bon, je pense que aujourd'hui, la vraie plus-value pour un pays comme la France, mais pour toutes les grandes puissances, au fond, enfin les grandes ou moyennes petites puissances, c'est la présence diplomatique et la capacité d'entrer en premier. Hein. Même une opération comme Serval dans un pays enclavé, bah, un tiers de la logistique est passée par la mer. Parce que tout ce qui est lourd, en fait, on ne peut pas le faire passer très facilement par les airs. Donc comment est-ce qu'un pays comme la France, qui représente moins de 1% de la population mondiale, qui a une économie en berne, qui a un rayonnement culturel qui décroît, par quel miracle peut-il être encore au Conseil de sécurité des Nations Unies? Alors on dit, mais on a l'arme nucléaire, elle est là pour qu'on ne s'en serve pas, donc c'est un argument qui est pas suffisant. Je pense qu'aujourd'hui, le marqueur du rang de la France dans l'univers, c'est pas le sous-marin nucléaire lance-engin, c'est le bâtiment de projection et de commandement, c'est tout ce qui est amphibie, à condition aussi d'avoir la couverture aérienne. Nous sommes le deuxième prestataire au monde d'opérations extérieures, on ne peut le faire que grâce à la puissance maritime. Et donc je pense que c'est ça qui est aujourd'hui capital.